C'est ce que me disait ma mère. Mets-moi, mets-moi. Je l'écoutais pas toujours. Tais-toi, tais-toi. Mais j'ai jamais su le taire. Tant mieux pour moi. Et tant mieux pour l'amour.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, comme d'habitude notre petite musique Charlie Brown, nous sommes le mercredi 26 mars 2025, c'est en direct que nous partons pour 1h30 de partage de livres, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire bien évidemment. Aujourd'hui, Frédéric, Agnès, Marie, Francis et Ève Villa, traductrice de l'anglais, notre invitée, cofondatrice en 2019 de la revue Graminée, une revue illustrée de nouvelles étrangères contemporaines. Frédéric n'a pas d'annonce à nous faire, donc je vous rappelle simplement que vous pouvez nous écrire, nous faire part de livres que vous avez aimés, et puis soit vous nous écrivez à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, soit sur le blog du groupe Commune de Paris, vous cliquez sur « Contact ». Au programme de cette émission, comme d'habitude, la première demi-heure, c'est pour alimenter le débat. Et pour alimenter le débat, c'est un livre qui concerne une ville, Brest. Alors, je vous en donne le titre. Le titre, c'est « À Brest ». Et Agnès va nous présenter ce livre. Et enfin, en fin de présentation, sans transition, comme dirait l'autre, nous passerons Trimartolode du groupe Triane. Frédéric, on y va ?
Brest, écrit par le collectif Auton aux éditions Divergence. Brest a été écrit à 12 mains, un collectif de personnes qui sont allées une semaine sur le terrain pour réaliser une enquête sur l'évolution de la ville de Brest, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs dans d'autres villes précédemment. Un documentaire comme un guide politique, humaniste et particulièrement complet. Si je puis m'exprimer ainsi, un routard de l'âme de Brest, je dirais. C'est une plongée sensible et intime dans la ville avec des témoignages et des récits. Ces 12 personnes sont Juliette Bayot, Gaëlle Bantegny, François Bijourdeau, Gwenaël David, David Deneuve-Germain, Antoine Desrouillères, Julien Olivier, quatre ouvrards, Joyce Sorman, Bénédicte Thibault, Xavier Trévoux et Stéphanie Vincent. Cet essai est construit tel une mosaïque, la mémoire, la langue, la vie, l'avenir. Cette ville est devenue une ville verte qui présente un parc appelé le Jardin des Explorateurs où sont protégées des plantes du monde entier. La langue Bretagne y règne en pays. Comme pour agrandir ton monde intelligible et sensible, écrit le reporter. Le centre-ville, dont les rues descendent vers les quais, a été remblayé et surélevé de 30 mètres au-dessus de son sol d'origine, après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, et s'articule aujourd'hui autour de la rue de Siam. Grâce au téléphérique et à la restauration des ateliers des Capucins, la ville retrouve un impact sur l'ancien port d'origine autour de la Penfield. La Penfield, c'est la rivière. La rivière qui coule autour de Brest. Les ateliers des Capucins ont en effet été rénovés, exposant d'imposantes machines anciennes, histoire de la ville, et est devenu un centre de rencontre et d'activités culturelles et sportives, une médiathèque aussi s'y est installée, médiathèque qui accueille aussi les jeunes migrants qui trouvent là quelques coups de main pour leurs différentes démarches. L'association ADGEM en particulier est très investie dans ce service jusqu'à l'aide à un logement provisoire. Il y a aussi le vœu de restauration de la prison de Montpontagnon, où furent enfermés nombre de résistants, ainsi que les grévistes de l'arsenal entre deux guerres. Et puis il y a la RAD, qui a reçu les 12 000 communards en attendant leur comparution devant le tribunal de guerre. Et puis les prisons flottantes, on les appelait les pontons. Ce sera ainsi que 11 navires serviront de prison aux insurgés de la commune en 1871. La marine bressoise est le premier employeur de la cité. Le château de Brest est devenu d'ailleurs un musée maritime. Le port de guerre s'est spécialisé dans le nucléaire. Lors d'un conflit majeur, cette spécialisation en fera une cible prioritaire, sans protection particulière majeure proposée à ses habitants. Pas plus que pour les menaces liées au réchauffement climatique, pourtant avérées par les chercheurs. Une association brestoise s'attache tous les 8 mai à développer une balade en 10 stations dans la ville, autour des monuments des déportés, des démineurs, des sous-mariniers morts de l'amiante, aux Brestois, morts sous les bombes. On ne comptait plus que 300 dockers dans les années 1990. Il n'en reste aujourd'hui que 27 à cause de la mécanisation. Ils sont guère nombreux. C'est un métier qui nécessite force et courage physique. Un conteneur pèse 2 tonnes vides et les engins de manutention sont difficiles à manœuvrer. À l'arsenal se trouvait la maison du peuple. Les ouvriers y étaient tous syndicalisés et se considéraient tous entre eux comme des frères. Ils parlaient entre eux un argot, une langue virile, comme écrit l'auteur. Aujourd'hui, les ouvriers de la flotte sont de multiples nationalités. Les marins sont rémunérés selon le niveau de vie de leur pays. Et les postes sont attribués selon leur nationalité. Vous lirez, vous découvrirez que ce livre n'est pas écrit comme un portrait figé de la ville, mais plutôt sur la façon dont une ville se raconte, se ressent et se remet en question. Cette ville ne se réduit pas à ses rues et à son urbanisme. La mémoire et la culture de la langue bretonne recomposent ce qui a été brisé. C'est un essai qui ouvre un éventail très riche d'informations. On ne peut pas être insensible à certaines descriptions faites des docks, des usines, du cimetière marin, du témoignage du peintre Paul Blow avec ses géants de papier collés sur les murs évoquant le travail des ouvriers. Ce livre est vraiment un guide qui donne envie de retourner visiter Brest et de s'en imprégner. En attendant, bonne lecture. Je vous rappelle le titre, Brest, écrit par le collectif Auton aux éditions Divergence.
Trimartolodia, oh, oh, non, là, non, dit que pas Trimartolodia, oh, et bon est à réagir.
Trimartolodia, oh, oh, non, là, non, dit que pas Trimartolodia, oh, et bon est à réagir.
Et bon est à réagir, et bon est à réagir.
Et bon est à me voir, mais gué, et bon est à me voir, mais.
Evit finance, oh la la, l'antique trahé, vite finance.
Baxié, par Zandiker dem Baxié.
Par Zandiker dem Baxié, par Zandiker dem Baxié.
À la journée, un petit, oh non là, l'andiguetra. À la journée, un petit, on les a d'oldre et d'en mêlée.
Eh bien voilà, c'est aussi un clin d'œil avec Trimartolode à nos amis de Folcalier, une autre émission sur Radio Libertaire que je vous invite à écouter. Nous allons passer, toujours dans la série pour alimenter le débat, nous allons passer en ce mois de mars qui, à Publico, est un mois féministe, mais bon, en vérité, c'est toute l'année qui est féministe. Eh bien, nous allons passer à la présentation d'un petit livre de Flora Tristan. Alors c'est un ensemble de textes, Marie va nous l'expliquer dans un instant, l'aventure de l'émancipation féminine. Et ensuite, eh bien, nous aurons un... Vous connaissez évidemment Petite Fleur de Sidney Bechet. Frédéric, c'est parti.
Alors, Flora Tristan, l'aventure de l'émancipation féminine, un petit ouvrage qui est en fait une anthologie. Présenté et préfacé par Brigitte Krulik aux éditions Gallimard, collection Folio. Alors, petit rappel concernant Flora Tristan. Donc c'est une figure majeure du féminisme et du syndicalisme du 19e siècle. Femme et mère courage, autodidacte, elle a milité non seulement pour l'émancipation des femmes, mais également pour la justice sociale et la solidarité envers les plus démunis. Étant elle-même issue d'un milieu modeste, elle veut prendre sa revanche sur sa condition de paria assumée et fière. Elle ambitionne de changer l'ordre social établi. Voyageuse et aventureuse, elle s'est rendue au Pérou, en Grande-Bretagne. Elle a fréquenté les milieux intellectuels parisiens proches du socialisme utopique et du saint-simonisme. Elle était opposée à George Sand au sujet de la fiction, car selon elle, en fait, il est primordial de nommer les choses pour mieux les dénoncer. Flora Tristan affirme donc la nécessité de constituer l'union ouvrière en un bloc soudé entre politique et syndicalisme, car elle considère que les différentes revendications ayant pour finalité l'émancipation doivent faire cause commune. Vers la fin de sa vie, elle a réalisé un tour de France et a contribué à la création de comités locaux de l'Union ouvrière à Lyon, Marseille, Toulon. Et dans ce petit ouvrage, qui, comme je l'ai dit, présente une anthologie de 11 fragments de l'œuvre de Flora Tristan, donc nous pouvons par exemple retrouver Pérégrination d'une paria, dans lequel elle dénonce les conséquences dramatiques de l'indissolubilité du mariage, elle-même ayant été mariée à un homme particulièrement violent. Elle donne son avis sur les engagements que doit avoir aussi un véritable écrivain, en se référant à son opposition avec George Sand. Elle aborde également son voyage au Pérou. Elle y décrit la liberté de mouvement des femmes de Lima, qui sont très très libres voilà, de pouvoir faire beaucoup d'activités dont ne peuvent pas jouir les femmes françaises. Dans Promenade dans Londres, Promenade dans Londres où l'aristocratie et les prolétaires, elle nous livre une enquête sociale en décrivant les bas-fonds de Londres et s'offusque contre le parlementarisme britannique qui dénigre les femmes, les prolétaires et les Irlandais. Elle a beaucoup observé les prostituées dans les finishes et s'indigne du sort réservé à ces femmes qui n'ont pas eu accès à l'éducation ni même à la formation professionnelle. Dans son Union ouvrière, elle met en avant la nécessité d'une union universelle pour faire sortir les prolétaires de leurs conditions misérables et insiste sur la place des femmes qui ne doivent en aucun cas être exclues de la cause syndicaliste. Et enfin, dans son journal du Tour de France, Flora Tristan décrit les conditions de travail très rudes des ouvriers à Lyon, à Saint-Étienne, et dénonce même le caractère indigne et précaire qui en découle. Elle aborde aussi l'inquisition policière à Toulouse, qui s'oppose en fait à ces manœuvres jugées révolutionnaires. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, car elle, justement, à la page 92, je cite, hein, elle demande une audience au préfet pour le convaincre du caractère tout pacifique de son projet d'union ouvrière, audience que le préfet refuse, et pourtant, maintient-elle, elle ne cherche qu'à accomplir les promesses de la Révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité, en s'engageant en faveur du droit au travail et du droit à l'instruction, conditions nécessaires à l'instauration d'un ordre social pacifié. C'est bien là que réside la mission que s'assigne Flora Tristan, exhorter les ouvriers et les ouvrières à surmonter leurs divisions pour s'unir et pour instaurer un rapport de force plus équitable. Voilà, c'est là tout le projet ambitieux de Flora Tristan.
On rappelle le titre, l'édition.
Oui, alors Flora Tristan, l'aventure de l'émancipation féminine, présenté et préfacé par Brigitte Krulik aux éditions Gallimard, collection Folio, et paru en février 2025.
Celle de la Bounty, celle de la
Bon, alors, chers amis, nous avons encore un petit souci technique. C'est un grand classique dans sur cette radio. Donc, je vais vous présenter un moment d'histoire. Voilà. Et puis après, nous retrouverons les autres rubriques. Un moment d'histoire. Eh bien, dans la rubrique historique, parlons un peu de la Commune de Paris. En effet, sur le site du Monde Libertaire, nous avons présenté récemment le livre édité par nos amis belges qui s'intitule Vive la Commune. Et je voudrais insister sur cet ouvrage en complément d'un conte écrit par André Léo. Alors, la Commune. Disposer d'un regard sur la Commune de Paris de la part d'amis d'un pays voisin qui a accueilli nombre de communards pourchassés pendant la Semaine sanglante constitue toujours un outil précieux pour apprécier la perception de cet événement hors de France. Et là, nous avons donc Sixtine Van Outrive, doctorante, Manus Cordia, dessinateur, Thibaut Dramet, graphiste, et Karim Nigassa, photographe, qui ont mobilisé leurs compétences pour un sympathique ouvrage donc intitulé « Vive la Commune ». Mais celui-ci, dès sa couverture, attire le regard, parce que vous allez me dire « bon, encore un bouquin sur la Commune ». Ben oui, mais celui-là est intéressant parce qu'il se compose de textes classiques, de dessins insérés, et ça c'est plus original, dans des photographies actuelles des lieux phares de la commune. Nous pourrions écrire qu'il constitue un guide pour visiter le Paris de la commune de 1871, d'autant qu'un plan figure en annexe. En couverture, des femmes, des hommes qui lèvent le poing, des fusils pour défendre cette commune devant l'hôtel de ville avec ses drapeaux rouges et ils crient, à l'instar du cri du peuple, le journal de Jules Vallès, « Vive la commune ». En page intérieure, un drapeau déchiré sur trois pavés reste de la semaine sanglante. Et cette phrase de Jeanne Varlin, toujours d'actualité. « Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorge, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. » Le propos a une portée universelle. Tout comme cette république démocratique, universelle et sociale à laquelle aspirait ce peuple en couverture. Proclamation de la République en septembre 1870, vous vous rappelez, mais comme le souligne Henri Guillemin, l'historien Henri Guillemin, la bourgeoisie va leur donner le mot, mais pas la chose, la République sans contenu. Et l'hiver 1870 produit des drames dus à la faim, la mort des enfants, le froid, les queues dans les magasins. Et, eh bien, une photo. Allons à l'angle de la rue Mira et de celle des Poissonniers, superposition de la vie actuelle et des Parisiens affamés, gelés, qui font la queue. En janvier 1871, le peuple bouge et libère Florence, Cipriani, Louise Michel, des geôles de la prison de Mazas. Détruite aujourd'hui et située devant la gare de Lyon. On retrouvera la rue, on retrouvera le lieu. Le cri du peuple est fermé. Une mesure de censure, rue d'Aboukir, allons-y. Passons aussi rue de la Corderie, au siège de l'Association internationale des travailleurs. Par des textes courts, les auteurs redonnent vie aux événements. Voilà une excellente introduction à cette histoire qui fut occultée pendant des années et dont les pouvoirs publics en France nient encore aujourd'hui la pensée et la portée politique. Bon, il est vrai que pour eux, vous savez, celui qui est au sommet de la République pour le moment, vous savez que pour eux, la République, elle était à Versailles. Ça laisse tout à fait une réflexion. Et ça montre aussi que le pouvoir actuel en France, eh bien, versaillais dans son comportement, dans sa pensée. Vivons les débuts de cette commune de Paris à Montmartre, bien sûr, dans les faubourgs, les premières défaites. Florence tuée à Rueil. La commune, ce sont aussi des débats. Dans des églises, des clubs, comme celui des prolétaires à l'église Sainte-Marguerite, rue Saint-Bernard. Il en résulte des réalisations comme le fonctionnement des services publics, des évolutions en droit du travail, l'enseignement, la justice, la culture, les arts, le rôle des femmes. Et puis vient la semaine sanglante, elle débute le 21 mai, des exécutions sommaires dans tout Paris. On retrouvera par exemple une photo, au Père-Lachaise. On voit même encore les traces de balles sur les marches du Panthéon, au Père-Lachaise bien sûr, et puis la dernière barricade, rue Ramponneau. Retrouvez aussi l'immeuble où se cachait Eugène Potier pour y écrire l'International. Rien que pour ce parcours, l'ouvrage est précieux. Les auteurs y ajoutent la manifestation place Delcourt, et ça aussi, on apprend à chaque fois, comme je le disais d'entrée de jeu, on apprend à chaque fois, grâce à nos amis d'un autre pays que le nôtre, eh bien, place Delcourt, à Liège, pour les 15 ans de la Commune de Paris, à l'initiative du groupe anarchiste de Liège, une manifestation s'est donc déroulée. Des arrestations, des violences, des grèves, à Serein, à Herstal. L'insurrection ouvrière s'étend à Jumet. La troupe est appelée. Les cadavres jonchent les rues. Triste journée. Néanmoins, selon nos amis belges, ces grandes grèves forceront la bourgeoisie de ce pays à des concessions, c'est-à-dire l'instauration des premières lois sociales. Non, la commune n'est pas morte et elle porte en elle les prémices de conquêtes démocratiques fragiles. Restons, et ça je crois que c'est vraiment très important, restons mobilisés. Il y a toujours des forces réactionnaires prêtes à remettre en cause ces acquis. L'actualité le démontre. Je rappelle le titre, donc « Vive la commune » aux éditions Krasny, en 2021, réédité en 2024. Et les auteurs, eh bien, on a Sixtine Van Doutrive, on a Manus Cordia, on a Thibaut Dramet et on a Karim Nigassa. Frédéric, est-ce que ça fonctionne mieux? On pourrait peut-être passer La Commune n'est pas morte.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de belles villes, les versants de la dune et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en musée de la cour d'un front. Nous avons entendu la voix.
Et puis, eh bien, le 26 mars 1871, Paris élisait les membres de la Commune et plus de la moitié du corps électoral votait. Je rappelle que c'était les hommes, évidemment, qui votaient, puisque le droit pour les femmes, ce sera bien plus tard. Et évidemment, la bourgeoisie, etc., avait déjà fui Paris, mais le peuple de Paris, à une belle majorité, désignait les membres de la Commune, c'est-à-dire de l'Assemblée. Et aujourd'hui, eh bien, 26 mars 2025, présentons un conte écrit par une communarde. Oui, nous connaissons les écrits politiques d'André Léo, tant lors de la Commune de Paris que pendant son exil et son retour en France. Elle y défend les droits des femmes, la construction d'une société socialiste. Ces contes sont beaucoup moins diffusés. Et c'est un plaisir de retrouver l'un d'entre eux, la Commune de Malampis. Alors c'est assez drôle parce que bon, c'est pas dans le style aujourd'hui, on lit très peu de contes dans les revues politiques, etc. Or c'était aussi un moyen de diffuser une certaine idéologie. Bon, et la Commune de Malampis, elle est accompagnée d'une préface d'Alice de Charentenay, publiée aux éditions Le Temps des Cerises. En 1873, en décembre 1873, vous savez quand même qu'André Léo, elle avait besoin de vivre de sa plume. La République française, c'est un quotidien, le quotidien de Léon Gambetta, qui par ailleurs n'a pas été très glorieux pendant la Commune, pour la défendre en tout cas, présente ce conte en feuilleton, repris rapidement en volume. Et cet ouvrage échappe au risque d'être une réécriture de la Commune historique. Il ne s'agit pas de faire ça. Il n'empêche que nombre de réflexions, de scènes, de personnages, font écho à cet événement. Et la presse aime ces feuilletons, des textes courts qui fidélisent le lecteur. Vous voyez, on a envie d'avoir la suite. On a des textes courts et puis des petits chapitres. Bon. Et pour André Léo, il s'agit d'analyser l'esprit des gens, les conséquences de l'économie de marché, de valoriser ses idées libertaires dans une langue travaillée, tantôt amusante, tantôt moralisatrice. Alors nous sommes dans la Commune de Bienheureuse. Bon, elle est bienheureuse puisqu'il n'y a pas de roi, que les institutions régaliennes comme la justice, les impôts, la police, l'armée sont quasiment inexistantes. Le conseil municipal, par ailleurs non exempt de défauts, n'a guère de pouvoir autonome. Mais comme dit un vieux sage de la commune de Malampis, vous n'êtes conseillé que par l'élection du peuple. Moi, j'utilise souvent à l'égard de certains élus, mais finalement, quitte à faire roi. La commune de Paris n'est pas loin. L'enseignement auprès des enfants mêle l'esprit et le manuel, encore un écho communard. On a l'impression d'y retrouver aussi la pensée de Proudhon. Tout va pour le mieux ? Pourtant, la simplicité de la vie campagnarde, rappelons-nous les origines poitevines aussi d'André Léo, est fascinée par le luxe de la cour du royaume d'à côté. Et sa description n'est pas sans rappeler les fantaisies d'Offenbach. Alors, par exemple, on a le général Rand de Krankboom et le roi Bombance. Les gens sont fascinés, les gens de bienheureux sont fascinés par le pouvoir et demandent à intégrer le royaume. Et là, tout se révèle. La hausse des impôts, l'enrôlement des jeunes, la guerre, le contrôle des contestataires, la censure. Tiens, Napoléon le Petit n'est pas loin dans la confusion des combats. Napoléon le Petit, c'est comme ça que Victor Hugo surnommait Napoléon III. Et comme c'est un conte, bah, tout s'arrange à la fin. Et morale de l'histoire, après tout ce qui s'est passé, après avoir vu les rois et princes amener avec eux les mauvaises mœurs, le vol et la guerre, il n'est personne maintenant à Bienheureuse qui ne sache que la vraie richesse est dans le travail et que le bonheur et l'ordre véritable ne sont pas ailleurs que dans la liberté. Jolie formule, un style de conte, oui, mais voilà, un certain charme. André Léo, La Commune de Malampie, aux éditions Le Temps des Cerises, une publication de 2021, oui. Enfin, une réédition de 2021. Alors, vous êtes bien sur Radio Libertaire, vous écoutez évidemment Au fil des pages. Est-ce que, Frédéric, nous pouvons passer Petite Fleur ou c'est pas possible ?
C'est possible.
Allez, allons-y. Thank you. Eh bien, deuxième temps de l'émission, dialogue avec Eve Villa, comme je l'ai dit en début, traductrice de l'anglais et cofondatrice en 2019 de la revue Graminée, une revue illustrée de nouvelles étrangères contemporaines. Et je souligne que vous pourrez rencontrer Eve Villa et sa revue et sa petite équipe au salon dit de l'autre livre les 4, 5 et 6 avril 2025, donc c'est prochainement, au Palais de la Femme dans le 11e arrondissement. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à parler avec elle. Et il y a d'autres éditeurs très intéressants que nous avons déjà invités dans notre émission et dont nous faisons état régulièrement des livres qu'ils publient. Donc Frédéric, est-ce qu'on peut passer Eve. Eve Villa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes traductrice de l'anglais, vous avez fondé en 2019 la revue Graminée, une revue illustrée de nouvelles étrangères contemporaines. Nous nous sommes rencontrés au salon de l'autre livre, voici quelques mois, et la création d'une revue, le travail de traductrice, avait évidemment toute leur place dans une émission qui s'appelle Au fil des pages sur Radio Libertaire et qui est passionnée par les livres et les revues. Vous écrivez des nouvelles aussi dans différentes revues. Pourquoi créer une revue aujourd'hui? Il en existe tant et à telle enseigne d'ailleurs qu'un salon l'aurait consacré. Quels sont vos objectifs?
Alors, nous avons fondé la revue ensemble avec Nathalie Tournillon en 2019 parce qu'on avait envie de faire un projet commun. On travaillait dans l'édition depuis plus de 20 ans, on était amis et on avait envie de faire quelque chose qui nous ressemble. Et puis Nathalie est éditrice, elle est spécialisée dans le livre illustré, donc le travail entre le texte, image, l'intéressait particulièrement. Et moi, en tant que traductrice, j'avais déjà repéré des nouvelles étrangères que j'avais envie de partager. Et donc, on est parti sur ce projet aussi parce que la nouvelle est un genre qui est peu porté par le secteur marchand. Et donc, on avait envie de combler un manque parce qu'il n'y avait pas de revue de nouvelles dédiées à la nouvelle étrangère.
Et oui, c'est-à-dire que quand on feuillette votre revue, et on a là le dernier numéro, on a vraiment depuis j'avais vu les autres, on a des numéros des auteurs du monde entier.
Oui, c'est ça, en fait.
Mais vous les retrouvez comment, ces auteurs?
Alors, je passe essentiellement par les traducteurs pour tout ce qui concerne des langues qui ne sont pas l'anglais. C'est-à-dire que, en fait, je contacte des traducteurs, des traductrices, je leur propose le thème du prochain numéro. Et s'ils sont intéressés, eux vont me proposer un échantillon de traduction et un résumé de la nouvelle, où ils vont me montrer l'angle par lequel la nouvelle attaque le thème, en fait.
D'accord. Pourquoi Graminée ?
Alors, Graminée, parce que c'est une famille de plantes qui pousse partout sur le globe. Et donc, ça résonnait bien avec l'idée de nouvelles du monde entier. Mm-hmm. C'est aussi une famille végétale qui est très importante pour la vie humaine parce qu'elle a permis à l'homme de se nourrir, en fait. Puisque on compte la plupart des céréales sont des graminées. Mm-hmm. Et donc, il y avait cette notion de nourriture qui était essentielle. Il y avait aussi la référence au féminin pluriel, et puis ça nous évoquait aussi quelque chose de léger, de la poésie, et puis quelque chose qui s'implante ailleurs.
J'ai pensé d'ailleurs un peu au Larousse, au dessin, enfin l'espèce de pissenlit là, c'est on diffuse en fait, vous diffusez aussi.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça. Et alors vous constituez une équipe ou vous travaillez en solo?
Alors, Nathalie depuis a quitté la revue, mais aujourd'hui, je travaille avec deux autres personnes qui sont Cyril Lomonier, qui est traducteur de l'italien et de l'anglais, et Anaïs Nectou, qui a longtemps été éditrice et qui aujourd'hui est conceptrice-rédactrice. Donc, tous les trois ont choisi les textes et les illustrations. Et ensuite, la personne qui nous suit depuis le début et qui s'occupe de la maquette, c'est Mathilde Dubois. Et elle nous suit aussi, toujours.
Une graphiste, une maquettiste.
Oui, elle est graphiste, oui.
D'ailleurs, évidemment, à la radio, c'est difficile de vous montrer, mais quand vous verrez la revue, vous apprécierez la qualité. Moi, j'ai beaucoup aimé le dernier numéro, notamment. Comment organisez-vous un numéro? Il y a des thèmes variés, un thème spécifique, comment choisissez-vous?
Alors il y a un seul thème par numéro qui finalement fait le lien entre les 10 nouvelles, à savoir qu'on a chaque fois 2 nouvelles par continent. Donc la maquette ne change pas, on a toujours une double page d'illustration pour chaque ouverture de continent, mais on conçoit le numéro comme si le lecteur ou la lectrice allait le lire du début jusqu'à la fin. Donc là on peut réorganiser l'ordre d'apparition des continents pour justement créer des rythmes différents, pour jouer sur les textes, voilà, suivant leur longueur, mais aussi les styles. Et donc à chaque fois, ben forcément, on cherche des textes avec une qualité littéraire, évidemment, mais on est vraiment très attaché à la diversité.
Et avec des couleurs aussi. C'est important, la couleur? Je vois par exemple faune, c'était en... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est beige foncé?
Oui, c'est du chocolat.
Ah, chocolat, voilà. Le dernier numéro, c'est... On va appeler ça prune, non?
Oui, une sorte de violet.
Bon, il y a du noir.
Oui.
Noir, c'est pour...
C'est pour évasion.
Évasion.
C'était le numéro 2.
Et puis le numéro 1, c'était couple.
Oui, et le premier est en quadri. Donc en fait on imprime en offset, effectivement le premier on l'avait fait en quadri et puis après on a voulu passer au noir et blanc, trouver que ben, ça donnait une identité aussi assez forte et de là est venu après le monochrome, les couleurs, oui c'est... Le thème, forcément, nous inspire la couleur. Et puis,
ah oui, le thème inspire la couleur.
Oui.
Alors,
oui.
Pourquoi le chocolat pour la faune?
Ben, je sais pas, ça nous a semblé évident. Oui, sans se concerter avec Nathalie, on a vu tout de suite une teinte comme ça, un marron, une nuance de marron.
Alors, comment contactez-vous les auteurs, surtout à l'international? Alors, vous passez par les éditeurs, vous passez, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, là, à l'instant.
Donc, comme je le disais, je contacte des traducteurs, des traductrices qui vont, eux, être spécialistes d'une certaine littérature, d'une région du monde. Et je leur propose le thème. Dans la revue, là, aujourd'hui, on a une quinzaine de langues qui sont représentées. L'italien, espagnol, grec, bulgare, suédois, croate, coréen, j'en passe. Les traducteurs donc, nous proposent un résumé du texte, un échantillon. Et les auteurs et autrices qu'ils choisissent sont en général connus dans leur pays, parfois à l'international. Pour la plupart, ils n'ont pas encore été publiés en France. Ou en tout cas, jamais pour leurs nouvelles. Parfois pour leurs romans, mais ça reste rare.
Et vous avez établi des consignes, le style, la longueur des textes, non?
Alors, pour ce qui est du style, on va dire qu'on cherche des textes qui sont un petit peu décalés par rapport au thème, ou qui ont un ton décalé, une forme singulière.
Un exemple?
Un exemple, c'est qu'on va choisir, par exemple, des textes qui peuvent aller vers le conte ou vers même la poésie. Mmh. C'est-à-dire que la définition de la nouvelle est un peu élastique. Elle est fluctuante.
Alors, c'est quoi une nouvelle, d'ailleurs?
Justement.
Tiens, hein bonne question, moi. Vous avez 3 heures.
C'est ça. Je ne sais même pas si on peut dire que la brièveté est un critère, mais bon, pour la revue, en tout cas, c'en est un.
Oui.
On va dire que le maximum de signes n'a pas dépassé de 25 000, même si, par exemple, on m'avait dit au début que les textes, les nouvelles asiatiques étaient en général très longues, et donc on a évidemment dépassé ce nombre de signes. Moi, ce qui me touche souvent dans la nouvelle, c'est l'économie de moyens. Le fait qu'on puisse finalement, en peu de temps, être immergé dans un tout autre univers, ou en peu de mots, nous faire imaginer un monde, en fait.
Il y a peut-être un travail de concision, d'être capable, en quelques phrases, quelques pages, oui, de décrire un univers, de décrire un événement, d'écrire le comportement d'une personne. Il y a ces éléments. Enfin, moi, je suis plutôt Maupassant, etc. C'est tout à fait ça. Mais vous, ce qui m'a intéressé dans cette revue, c'est cette dimension à l'international et de montrer Les particularités culturelles, bah vous parliez les nouvelles chinoises, les nouvelles vietnamiennes, là, qui sont plus longues traditionnellement, hein, c'est intéressant, alors que nous, c'est plus court, généralement. C'est intéressant. Qui choisit les illustrations? Comment les sélectionnez-vous?
Alors, les illustrations, en général, Anaïs et Cyril font une première recherche, souvent en regardant les sites ou les pages sur les réseaux des illustrateurs. Mmh. Et puis ensuite, on se retrouve pour faire une sélection plus réduite, tous les trois. On cherche des illustrateurs, des illustratrices dont l'univers résonne avec le thème. Ou alors si une technique utilisée attire notre attention. Sur l'ensemble du numéro, on va encore une fois diversifier les approches et les techniques utilisées pour encore une fois chercher cet éclectisme.
Et on est parfois très précis. On nous indique, alors on passe à l'Amérique, là, par exemple, on ouvre la revue, et on a encre de Chine sur papier Moleskine, Christian Roux. Christian Roux, c'est le dessinateur.
Oui, c'est l'illustrateur.
Voilà. Hein, donc, donc c'est très, très précis. Encre de Chine à la plume et feutre. Là, c'est bon. Vous les sélectionnez. Est-ce qu'on pourrait voir, puisque moi je le feuillette, je l'ai lu bien sûr, mais présentez-nous le dernier numéro. Comment ça s'est conçu? Comment il est sorti au mois de décembre, hein, d'abord.
Oui, hein, c'est ça.
On s'était vu au mois de novembre. On avait dit tiens, attends décembre, puis on se voit. Alors ce dernier numéro, comment?
Donc, ce dernier numéro s'intitule Couleur. Là aussi, on a contacté des illustrateurs, des illustratrices.
Pourquoi, entre parenthèses?
Le S, entre parenthèses, est toujours présent justement pour...
Couple aussi.
Oui, toujours sur chaque... En fait, on choisit des thèmes qui sont assez ouverts et qui permettent l'interprétation, justement, comme je le disais, dans un premier temps du traducteur, de la traductrice, puis notre subjectivité, notre choix. Et donc l'idée, c'est de parler de cette pluralité des subjectivités, pluralité des points de vue, des voix, parce qu'on essaie vraiment de faire tout un prisme autour du thème, en fait. On cherche à créer des surprises, donc des angles différents. Donc le S nous paraissait important.
D'accord. Très bien. Alors, on a donc 5 continents, 10 écrivains, 6 traducteurs, 4 illustrateurs. Hein, oui. C'est ce que j'ai en couverture. Là. Comment avez-vous organisé ce numéro?
Bien, on a encore une fois cherché des textes assez divers sur la forme et le fond. On a une belle palette de pays représentés, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Singapour, Libye, Namibie, entre autres. Ce numéro-là, on l'a voulu peut-être un peu plus léger. Il est aussi plus ancré dans le réel que le précédent, qui était un peu plus fantastique. Il y a des textes qui sont même drôles, ce qui, je pense, est une première. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, je dirais que le reflet est un peu plus nuancé, en fait. On se voit un peu ridicule, un peu mesquin. Les textes, je trouve, résument bien notre fragilité, notre impuissance face à certaines situations aussi. C'est un numéro qui me touche beaucoup, parce que je le trouve humain, vraiment incarné. C'est une littérature qui a de la chair.
Il est sorti en décembre.
Oui.
Hein. Le prochain est en route.
Oui, le prochain est en route.
Quel thème?
Le thème sera bouche.
Et comment diffusez-vous, Graminée?
Alors, nous nous autodiffusons. Pour cela, on fait des dépôts dans des librairies, en fait.
Et on dans a des une... librairies, oui. Sur Paris, France entière, vous
France
avez des contacts
entière.
Un peu partout.
Oui, on essaye.
Ouais. Comment peut-on avoir la liste de ces librairies quand on habite à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Strasbourg?
Et on peut nous contacter à notre adresse mail que je peux donner à sograminée@gmail.com
Et vous avez un site internet ?
Non, on a un site internet qui est actuellement en travaux, mais il sera bientôt prêt normalement.
Bon.
Mais on peut commander la revue sur le site helloasso.com en cherchant Graminée dans la barre de recherche.
Bon, et puis nous, de toute façon, nous allons faire figurer sur le blog du groupe Commune de Paris l'adresse courriel. Donc c'est une revue qui tire à combien ?
À 300.
300 exemplaires, et c'est bien, enfin vous arrivez, c'est bien au sens où vous arrivez à, depuis 2019, c'est à tenir la parution régulièrement.
Oui.
C'est bien.
On fait un numéro par an, et sur les deux derniers numéros, on a obtenu les subventions du CNL et de la Fondation Michalski.
Nous échangeons pour préparer cette émission et vous me faisiez part de vos inquiétudes quant à l'avenir de la traduction. Bah oui, vous êtes traductrice et puis cette revue travaille beaucoup sur la notion de traduction et vous me faisiez part donc de ces inquiétudes sur l'avenir, la pression du marché, le prix de la page à la baisse et l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors peut-être expliquez-nous en premier lieu le processus de la traduction dans le rapport du texte d'origine, du traducteur, de la traductrice et la version française. Et puis, à cette occasion, nous parler de l'intelligence artificielle.
Alors, on commence à travailler à partir d'un texte source. Et en général, je vais vraiment parler à titre personnel, mais je ne sais pas vraiment comment je vais me sentir dans le texte, en fait, avant de traduire. Je ne sais pas si je vais être à l'aise avec la langue ou s'il va me falloir du temps pour me familiariser avec la voix de l'auteur. C'est comme une sorte de rencontre et d'accordage, en fait, qui prend du temps. Et ça, c'est rendu possible par le premier jet, en fait. C'est un moment où finalement on commence à traduire en laissant pas mal de choses en suspens, en se disant qu'on reviendra plus tard quand on sera plus entré dans le texte, plus familier.
Sentir les nuances du texte, de l'auteur. Oui.
Et que ça sera plus facile à trancher. Et donc ce premier jet, aujourd'hui, ce qui est proposé en post-édition, c'est de travailler directement sur un...
Post-édition pour les auditeurs et auditrices.
Oui, c'est ce qui revient à travailler sur un premier jet machine.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, on est privé de cette étape, de cette rencontre avec le texte. Donc, en gros, ce n'est plus vraiment le même travail, puisqu'il va s'agir de relire un texte existant. C'est une réécriture qui consiste à modifier ce qui ne convient pas. Et finalement, on ne va pas envisager plusieurs possibilités, mais on va se contenter de corriger les choses qui ne sont pas correctes, en fait.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un appauvrissement du métier, de l'intérêt du métier de traducteur ?
Alors, il y a, oui, un appauvrissement. Enfin, pour moi, même, ce n'est plus le même métier. Et ça aussi, ça entraîne un appauvrissement même de la langue, puisqu'en fait, comme il n'y a pas toutes ces options d'emblée, on va aller sur juste, encore une fois, conserver ce qui passe et pas aller sur d'autres interprétations, finalement.
Les éditeurs font pression pour faire baisser les coûts ?
Alors, les traducteurs littéraires, c'est-à-dire les traducteurs qui travaillent dans l'édition, ont le statut d'auteur. Donc, je précise parce qu'on n'a pas droit au chômage aujourd'hui.
Oui, c'est donc la raison pour laquelle vous n'êtes pas auto-entrepreneur et vous avez des droits d'auteur et si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de chômage.
Voilà, c'est ça.
C'est genre fragilité difficile à vivre.
Voilà, donc en fait, il y a un avaloir qui est en gros versé au moment de la livraison de la traduction et ensuite il y a le contrat qui prévoit des droits proportionnels qui interviennent une fois l'avaloir amorti.
5%, 2%, 40%.
En général, oui, on est bien moindre. Mais, donc là,
40%, c'est une blague.
Oui, c'est ça. C'est, c'est... Moi, je suis autour de 1%.
1%,
voilà. Donc, ça donne déjà plusieurs angles de négociation, sans parler des délais. Donc, quand on parle de pression, il y a plusieurs, finalement, il y a plusieurs endroits où la pression peut s'exercer aussi. Et puis, c'est difficile de négocier un tarif avec un éditeur parce qu'on n'a pas vraiment le même poids aussi.
Non.
Bon, aujourd'hui, le Centre national du livre a revalorisé le taux de rémunération minimum du traducteur. Donc, à partir de juin 2025, on passe de 21 à 24 euros pour 1300 signes en comptage informatique. Mais bon, je dirais que les éditeurs qui n'ont pas recours aux aides, donc aux subventions que délivre le CNL, se sentent peut-être un peu moins concernés, finalement. Mmh. Et puis, moi, j'ai énormément travaillé dans la littérature de genre, la romance notamment, et dans les livres aussi, des livres pratiques, les manuels illustrés. Là, en général, les tarifs sont inférieurs aussi.
Et puis, la traduction qui... Ce qui m'intéresse, c'est de voir que certains auteurs, comme par exemple le regretté Umberto Eco, tenaient à conserver leur traducteur. Par exemple, il y avait Jean-Noël Cifano pour Umberto Eco. Est-ce qu'il y a un lien qui s'opère entre l'auteur, le traducteur ?
Oui, alors, tous les traducteurs n'ont pas la chance de pouvoir avoir un lien direct avec l'auteur. Moi, ça m'est souvent arrivé de poser les questions à l'éditeur, l'éditrice, qui ensuite transmet. Mais de toute façon, quand on travaille sur plusieurs fois sur un même auteur, sur les textes d'un même auteur, on connaît quand même la langue, ses particularités, ça donne une familiarité, on se sent plus à l'aise. Et puis après, effectivement, quand on a la chance pour la revue, par exemple, donc pour tout ce qui est texte de l'anglais, c'est moi qui prospecte et qui donc est un rapport direct avec les auteurs et les autrices. J'ai la chance de pouvoir leur poser toutes les questions qui me traversent. On échange sur le texte. Ça crée un lien humain qui est nourri d'emblée parce qu'on passe par l'intime, en fait. C'est vraiment une démarche, pour être au plus près, finalement, de la voix de l'auteur. Enfin, eux sont très sensibles, finalement, à la recherche de cette justesse.
Oui, mais enfin... avec l'intelligence artificielle, bon, ça va faciliter tout ça, ça sera beaucoup moins cher, plus rapide, tout le monde sera content. Évidemment, c'est de l'humour. Hein. C'est bien le risque, non ? C'est pas un argument qu'on nous sort ?
Si,
moi, je l'ai déjà entendu.
Si. L'argument, c'est que ça va nous faire gagner du temps, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a quand même aussi une fatigue qui s'installe à travailler sur un texte qui existe déjà, parce que ça fait finalement 3 textes. Donc, on peut travailler moins longtemps aussi. Et puis, sur la question des tarifs, donc moi, j'ai pas fait de post-édition, mais on m'en a proposé. Et pour donner un ordre d'idée, on me proposait 10 euros pour 1500 signes, au lieu des 19 habituels. Donc, on est quand même là aussi sur un tarif bien inférieur.
Je remercie Ève de donner des vrais chiffres et pas des « oui, on gagnera moins », non, ben voilà, c'est quasiment 2 fois moins quand même, hein. C'est assez redoutable. Vous avez déjà comparé sur le fond une de vos traductions avec une production de l'IA ?
Non, je ne l'ai pas fait parce que, je dirais que ça m'intéresse pas vraiment de savoir quel résultat ça donnerait, parce que je me méfie de la tendance à me moquer des erreurs commises par la machine ou finalement à essayer de comparer ou voir quelles sont les améliorations. En fait, ce que je ne veux pas, c'est juste finalement ce que ça implique dans mon métier et aussi ce que ça promet comme projet de société, en fait, cette technologie. Bon, franchement, ne serait-ce que la question écologique suffirait à arrêter tout net tout ça, mais il y a aussi finalement tout une idéologie et juste je dirais que j'avais assisté aux assises de la traduction. Tous les ans il y a des assises organisées par Atlas et donc il y a un observatoire de la traduction et qui s'est intéressé à l'IA depuis pas mal d'années Et il y avait un philosophe invité qui est François Hotman. Et lui, il mettait le doigt sur quelque chose qui m'a beaucoup touchée, sur le fait que on devait aussi s'intéresser à ce que ça faisait aux traducteurs de traduire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce mouvement de la pensée ? Qu'est-ce que ça fait à toute une société d'avoir des gens qui traduisent et qui donc finalement font entrer l'étranger dans une langue commune ? Et pour moi, c'est très pertinent en fait, parce que la façon dont l'IA finalement s'immisce dans le métier, elle me prive finalement de la pensée et de la créativité dans mon travail. Et il y a aussi l'idée que quand je traduis, je prends en charge un énoncé, j'ai une responsabilité, mais c'est aussi un moyen d'exercer ma liberté. Et finalement, la présence de l'IA, pour moi, ça me prive de ces deux choses.
Alors, comment lutter ? Comment est-ce qu'on peut lutter, d'abord ? Comment peut-on s'organiser ? Et puis, il y a combien de traducteurs, tiens, en France ? Combien de traducteurs ?
Alors, en France, il y a 10 000 traducteurs et traductrices littéraires.
10 000
donc de l'édition. Après, il y a des traducteurs de pragmatiques, dont là, je n'ai pas les chiffres. Mmh. Mais dans l'édition, on est 10 000, et dont 1 000 sont membres de l'Association des traducteurs littéraires de France.
Donc ça, c'est une ébauche d'organisation, oui, j'évoquais, pour lutter contre la fragilisation.
Oui, c'est une association qui existe depuis longtemps. Il y a aussi Atlas, qui est aussi une association qui promeut la traduction littéraire. Il y a l'ATES, qui est plutôt destinée aux traducteurs, traductrices des sciences sociales. Donc c'est pour les traducteurs et traductrices des sciences sociales. L'ATA, pour les traducteurs et traductrices de doublage et de sous-titres. Plus récemment, s'est monté le collectif En chair et en os, qui est en faveur d'une traduction humaine. Et pour les traducteurs pragmatiques, donc il y a la Société française des traducteurs et aussi un collectif aussi plus récent qui s'appelle IA Alerte Générale.
Donc l'ensemble de ces associations, structures, on peut les retrouver évidemment sur Internet et puis on peut donc les contacter. Le temps passe. Hein, où peut-on vous retrouver de visu prochainement ? Je crois qu'il y a un salon de l'autre livre en avril à Paris.
Oui, il y a le Salon de l'Autre Livre du 4 au 6 avril et il aura lieu au Palais de la Femme.
Voilà, et c'est là qu'on s'était rencontrés, vous aurez votre stand. Oui. Bon, c'est bien. Donc votre site internet est en construction, hein, Eve Villa, merci pour cet échange et nous attendons surtout le prochain numéro de la revue Graminée dont vous nous avez parlé aujourd'hui, alors à une autre fois.
Merci beaucoup.
Au revoir. Thank you.
Voilà, pour rester dans l'ambiance graminée, nous avons écouté une sonatine bucolique, extrait d'une sonatine bucolique, une chanson champêtre d'un compositeur peu connu, Henri Sauguet, de l'école d'Arcueil. Nous entrons maintenant dans le troisième temps de notre émission, consacré là deux commentaires de livres sur les romans de la vie, et tout d'abord avec Frédéric, qui va nous présenter Le Tchéquiste. Frédéric.
Oui, bonsoir chers animateurs, auditeurs et auditrices, excusez-moi. Alors cette semaine, je vais vous présenter un livre de Vladimir Zazoubrine. C'est un auteur russe très peu connu, né en 1895 et fusillé en 1937 lors des purges staliniennes et de la Grande Terreur. La date de sa disparition est bien sûr liée à l'histoire de l'Union soviétique et, ironie de l'histoire, il est un des auteurs préférés de Staline, enfin jusqu'à un certain moment évidemment. Il participe à la révolution de 1917 au sein de l'armée rouge, en cours de constitution. Son œuvre la plus connue est ce roman, Le Tchéquiste. Ce roman fut adapté au cinéma en 1992 par Alexander Rogozkin. Alors venons-en au roman. C'est un roman qui se situe à un moment de grande répression, en Russie, Union soviétique, tout dépend de la date bien sûr, comme on sait tous que l'Union soviétique a été plus ou moins décrétée en 1922-23. Alors Stroubov, le personnage, est tchéquiste. Un tchéquiste convaincu et sûr de ses idées politiques. Il a beaucoup de mépris pour les contre-révolutionnaires, les bourgeois, les blancs. Dans les caves d'un bâtiment de la Tchéka, on ne le situe pas exactement, il met dans une certaine ville, on ne sait pas, il met en pratique ses idées politiques sans pitié. Stroubov décrit les personnes qui vont être exécutées. Il les décrit physiquement, il décrit leurs vêtements, leurs derniers moments, le processus inhumain de leurs éliminations. L'évacuation des dépouilles mortelles, des vêtements. Et Stroubov et d'autres tchéquistes assassinent à un rythme soutenu, sans remords ou presque. Stroubov trouve que c'est dommage pour cette femme blonde. Il la trouvait jolie, mais elle est assassinée quand même. L'auteur Zazoubrine n'épargne rien à la description. Et ce pour dénoncer les exécutions arbitraires qui sont un des résultats de la révolution russe. Je pense que l'auteur veut que nous sachions comment pouvaient se dérouler les exécutions sans censure pour bien décrire le caractère inhumain de ces exécutions, le caractère froid, technique et monstrueux des bourreaux. Stroubov a une mère chez qui il habite. Il a ce qu'il pense être des amis et particulièrement un, dont vous saurez pourquoi cet ami de circonstance et collègue de Stroubov a un lien particulier avec le père de Stroubov. Et Stroubov est obligé d'accepter ce lien, au nom de la Révolution, pour la bonne marche de la Révolution. Vous saurez pourquoi en lisant jusqu'où cet homme est capable d'aller pour justifier les sacrifices qu'exige une Révolution. Stroubov fatigue de plus en plus. Il fait aussi du travail de bureau, des tâches administratives, quelqu'un, à un tel point qu'il reçoit des personnes qui viennent intercéder pour éviter une exécution, pour plaider l'erreur. Stroubov se méfie de qui, de quoi. Il est déçu et dégoûté par un collègue qui a basculé dans l'alcoolisme pour faire face à la fatigue physique et mentale des exécutions. Le collègue risque la mort car on ne supporte pas les faibles à la Tchéka. Stroubov, entre guillemets, travaille la nuit, le jour, c'est épuisant, il rentre chez sa mère et devient apathique, déprimé sans doute. Il ne se rend plus au bâtiment de la Tchéka. Que va-t-il arriver à Stroubov en pareil cas? La révolution qu'il défendait il y a peu va-t-elle s'occuper de lui? Eh bien, vous le découvrirez en lisant ce roman. Je vous conseille vraiment cet ouvrage qui est très éclairant sur les systèmes politiques qui assassinent, et ce, peu importe la couleur politique des révolutions autoritaires et totalitaires. Bien sûr, je vous donne maintenant le référence de ce roman. C'est Le Tchéquiste, de Vladimir Zazoubrine chez l'éditeur Christian Bourgois. Voilà, Francis, à toi.
Eh bien, si vous avez eu quelques difficultés à noter, notamment l'orthographe de Zazoubrine, rassurez-vous, vous pourrez retrouver les références sur le site de Radio Libertaire, sur le site du Monde Libertaire, puisque nous publions à chaque fois le programme de notre émission, et puis sur le blog du groupe Commune de Paris. Nous allons maintenant passer à un autre roman sur un période plus ancienne d'une maison d'édition que nous aimons bien qui s'appelle Au vent des îles. Alors nous allons écouter Agnès nous parler du livre Celle de la Bounty. À toi, au revoir.
Celle de la Bounty, écrit par Rowan Metcalf, traduit par Henri Thoreau, aux éditions Au vent des îles 2024. Je ne présenterai pas la maison d'édition Au vent des îles, dont nous présentons régulièrement les romans, très souvent rattachés à un moment historique. Celle de la Bounty, et un de ceux-là, il raconte les premiers contacts des Polynésiens avec les navigateurs anglais dans les années 1769, l'histoire de Maouata, polynésienne de sang royal, ainsi que quelques de ses amis qui l'accompagnèrent plus tard à bord du Bounty, où elle deviendra la compagne de Christian Fletcher et d'où elle partira avec d'autres Polynésiens sur l'île de Pitcairn en 1790. Rowan Metcalf est une écrivaine. Elle est née en 1955 et décédée en 2003. C'est une descendante directe du couple Moatua et Christian Fletcher. Quelques petites particularités font de ce roman un livre un peu compliqué à lire tout de même si rapidement on devine le vocabulaire tahitien. En effet, de nombreux mots sont écrits en sept langues et on s'appuie beaucoup sur le glossaire en fin du roman pour comprendre au début. De plus, les Tahitiens utilisent beaucoup de surnoms au sujet des personnes familières ou pas. Et de ce fait, toute personne peut avoir un surnom différent selon sa maturité. Ces surnoms divers correspondaient pour eux à un changement de statut social en général. Par exemple, Moatua, la jeune femme, elle s'appellera tour à tour Maïmiti ou Mainmast, grand-masse, ça veut dire. Christian Fletcher, surnommé Titiziano, la baptisera Isabella. Enfin, l'écrivaine appuie son récit sur une étude sociologique des Tahitiens, fort précise et longue, puisqu'elle occupe presque les deux tiers du roman avant l'histoire même du Bounty dans leur vie, en particulier pour les femmes. Parlons un peu de ce peuple particulier. La vie à Tahiti est gérée par un couple de chefs de sang royal. Ils se suffisent à eux-mêmes tellement la terre y est propice. Il existe des serfs, ce sont ceux qui ont les petits métiers de pêcheurs et les constructeurs de pirogues, mais ils ne manquent jamais de rien. La vie des jeunes femmes est rythmée par les bains, les couronnes de fleurs, les danses, mettant en avant leurs beaux tatouages qu'elles gagnent en devenant adultes. Moatua est encore une enfant quand les premiers navigateurs anglais arrivent sur l'île. L'accueil était toujours chaleureux et d'exception lorsqu'ils voyaient arriver les voiles du bateau du capitaine Cook, qu'ils surnomment Tut. La description faite des présents remis aux Tahitiens est charmante. Il y avait des animaux à quatre pattes qui portaient de longues dents sur le front et laissaient derrière eux des colliers de petites crottes rondes. Tut aurait dit que leur lait était bon à boire. Et personne ne croyait cela possible. Il ne peut pas être convenable de boire le lait des animaux. Voilà ce qu'on pensait. Et puis, les hommes du bateau portaient des vêtements à deux jambes. Et puis, il y eut les moutons, dont on pouvait récupérer la laine. Les chevaux, montés par ces hommes indomptables pour les Tahitiens. Et puis, les témoignages des Polynésiens, dont May, qui avait fait le voyage en Angleterre, et qu'il leur raconte la vie là-bas, chez les Blancs, habitant de petites maisons de pierre et à étages, chose impensable pour les Tahitiens. On ne peut pas marcher sur la tête de quelqu'un. Les contrastes sociaux entre les nobles et les serfs, laissés à leur misère, relation tout aussi impossible à admettre pour eux. L'existence de la monnaie comme échange, et puis le livre, la Bible, que confiera Mé à Moatua. Des centaines de feuilles marquées de tatouages, dit-elle qu'elle étudiera pour ses calligraphies, et dont elle recopiera certains extraits pour les membres de la cour de la reine Itia, sur de grands tissus de couleurs. Lors des passages du capitaine Coq d'Itute, les femmes s'offraient aux matelots, les maris les envoyaient là, en échange de quelques petits présents, miroirs, peignes et outils de métal. Cela finissait par des maladies sexuelles, des avortements ou des prématurés. Moatua devint Maïmiti en devenant femme. Après avoir, comme le veut la tradition, eu les tatouages sacrés sur les poignets et les hanches, elle rencontrera alors Rehua, dont elle aura un fils, peu avant l'arrivée du Bouddhi, dont le capitaine était le lieutenant Blig, bateau sur lequel elle rencontrera Christian Fletcher, lieutenant à bord encadrant une quarantaine de marins. Je vous laisse découvrir le témoignage de toutes ces femmes polynésiennes, investies malgré elles dans l'aventure mémorable de ce vaisseau anglais, venues chercher de l'arbre à pain pour nourrir les esclaves des colonies anglaises. Bonne lecture, je vous en rappelle le titre, « Celle de la Bounty », écrit par Rowan Metcalf, traduit par Henri Thoreau, aux éditions Au Vent des Îles.
Merci Agnès. Je voudrais poursuivre avec deux livres portant plus sur des événements historiques, même si finalement la découverte, le choc entre le monde européen et le monde polynésien a été un moment difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien je voudrais là aborder un drame. Un drame qui s'est déroulé à Aigues-Mortes le 17 août 1893. Ce jour-là, dans les marais salants d'Aigues-Mortes, où la récolte du sel rassemblait des centaines de travailleurs français et italiens dans des conditions épouvantables, s'est déroulé le plus sanglant « pogrom » entre guillemets de l'histoire française contemporaine. Et pourquoi je le mets entre guillemets? Parce qu'évidemment, tout le monde sait bien que le pogrom, ça a une signification bien particulière. Mais là, vous allez voir comment ça va se passer. Des émeutes entre ouvriers, au lieu d'être solidaires, ont provoqué la mort d'au moins 8 Italiens et fait plus de 50 blessés. Malgré les témoignages et les preuves accablantes réunies contre eux, les assassins français ont tous été acquittés. Cet événement, perçu par la presse de l'époque comme un fait divers, fut longtemps occulté. Et Gérard Noiriel, un historien bien connu, spécialiste de l'immigration et de la question nationale, procède dans ce petit ouvrage à une analyse des faits et de leurs conséquences qui relève d'un modèle d'histoire couronné par le prix Augustin Thierry des rendez-vous de l'histoire de Blois. En effet, pour tous les étudiants en histoire, c'est, je pense, un livre très intéressant à la fois sur le contenu et sur la méthode. Alors, pour comprendre le phénomène, l'auteur étudie son déroulement au ras du sol, comme il écrit. Je cite « Cette recherche m'a donné l'occasion de mettre en œuvre la démarche socio-historique que je défends pour éclairer un événement à la fois social, politique et diplomatique. Ainsi, avec lui, nous pénétrons dans la vie quotidienne d'Aigues-Mortes. Au XIXe siècle, le monde ouvrier en province vit encore en partie d'activités agricoles. Il n'est pas le prolétariat des villes comme à Paris. Les clivages sont différents avec les salariés de souche et les autres, ceux qui habitent en ville et les autres. La compagnie des salins du Midi fait appel à des saisonniers. des immigrants pauvres du Piémont et de Toscane, mais aussi à des trimards, vous savez, des trimards français, plus ou moins vagabonds. Elles mettent en concurrence ces différentes catégories et jouent des oppositions et de l'énergie dans le travail. Les disputes sont fréquentes entre ces ouvriers et tout éclate le 16 et le 17 août pour une histoire de chemise pleine de sel jetée dans un bac d'eau potable. Bon, c'est un peu moche, c'est vrai. Mais il en résulte une abominable chasse à l'homme avec l'alliance des trimards et des habitants qui dénoncent ceux qui se protègent. La tuerie se pratique à coups de gourdin, de fusil. Le travail, je cite, « le travail de forçat que la société des Salins exigeait était manifestement au-dessus de leurs forces. Des individus n'ayant rien en commun, soumis à une concurrence de chaque instant, placés dans des conditions matérielles et climatiques totalement inhumaines, la chaleur sur ces, au mois d'août dans ce secteur-là, peuvent se livrer entre eux à une guerre d'extermination pour peu qu'une étincelle mette le feu aux poudres. » Et donc les aigues-mortins, hors-mortais, ont légitimé le processus comme les documents le montrent. Bien sûr, il y eut des actes de solidarité, mais l'anomie, l'absence de lien social l'emportait pendant ces deux jours de folie sociale, qui n'est pas sans rappeler un livre concernant la mort et un début de cannibalisme dans le Massif central, qui montre bien que quand la foule est folle, elle est vraiment très folle. Seconde étape de cette étude de Noiriel, il convient de prendre de la hauteur et d'apprécier le contexte. La France connaît une nationalisation de sa société, vous savez, on construit l'État-nation. Il faut faire partie d'un tout, disposer d'une langue, d'une histoire. Des lois protectionnistes sont adoptées, la xénophobie monte en puissance, les vêpres marseillaises contre, là aussi, des Italiens sont soutenus par des élus. En effet, que s'est-il passé? C'est au moment des vêpres à Marseille. On a chassé de l'italien, on a chassé du rital, comme on disait. À la lecture des faits, des arguments, le lecteur mesurera que ceux-ci n'ont guère changé depuis le 19e siècle. C'est toujours le même propos. C'est le paradoxe d'avoir besoin de main-d'œuvre étrangère et de limiter, de créer un climat d'exclusion, de contrôler l'entrée de ces travailleurs. Notre République ne sort pas de cette problématique. Et là, pour le coup, on pourrait dire que le livre dont je fais état, là, que je vous présente, eh bien, est d'une actualité rare. En fait, les trimards n'avaient pas la même force de travail que les macaronis. Voilà, comme on les appelait aussi. Et plutôt que de se mobiliser tous ensemble, pour reprendre une formule, contre les conditions de travail, ils se créent une identité de réaction. Il faut virer les macaronis. Est-ce que ça va calmer le jeu pour autant? Est-ce que les trimards vont avoir de meilleures qualités de vie et de travail? Bien sûr que non. Simplement, c'est la démonstration que la division de la classe ouvrière n'aboutit jamais à une grande image. Voilà. Et pour calmer les esprits, alors on va faire juger l'affaire à Angoulême. Vous voyez, l'affaire est déplacée. Bon, on préfère aller faire juger à Angoulême, c'est plus loin à l'époque. Bon, il n'y a pas de TGV, il n'y a rien du tout. Donc, enfin, il n'y a rien du tout. En diligence, c'est plus compliqué. Donc l'affaire, elle est déplacée. Et les jurés d'Angoulême préfèrent acquitter les accusés, quand bien même les accusés reconnaissent les faits. C'est un grand moment, ça, quand même. Parce que là, en ce moment, nous écoutons quelques procès, on en parlait avec Fred tout à l'heure. Bon, quelques procès où, jusqu'au bout, je suis innocent, je porte ça sur mes épaules, etc., etc. Là, les accusés reconnaissent les faits. Mais non. Les jurés d'Angoulême décident, on va acquitter. Et à cette occasion, Gérard Noiriel reprend les déclarations du procureur de la République, des forces de l'ordre qui arrivent bien tard pour protéger les victimes. Bon, c'est des macaronis. La presse banalise les faits. Oui, oh. Seul, notre ami Bernard Lazare, anarchiste, qui, d'ailleurs, je vous le rappelle, défendra Dreyfus. On reviendra d'ailleurs sur Dreyfus, même si Marie, dans notre précédente émission, a parlé d'un livre de Duclerc sur cette affaire Dreyfus. Bon, mais seul Bernard Lazare restera lucide par rapport à l'affaire d'Aigues-Mortes. In fine, bah, vous savez, il va falloir toujours un bouc émissaire. Bah, là, ça sera le maire. Il devra démissionner. Les fonctionnaires d'État aux ordres de l'Empire, jusqu'en 1870, seront protégés par les conservateurs républicains. En effet, c'est les mêmes qu'on garde. Ça, c'est un grand classique. La dimension internationale de l'événement conduit à jeter un voile pudique avec des procès-verbaux trafiqués. Tiens, on fait du faux en écriture publique. Il faut blanchir et passer à autre chose. Le malaise est encore palpable aujourd'hui sur la ville. La relation des faits et le drame qui se sinoue ne sont pas sans rappeler l'affaire d'autres faits, ce que je vous disais sur ce village où un jeune homme a été massacré avec une frénésie identique. Alors là, je cite un livre que j'aime beaucoup, parce qu'il y a plusieurs livres sur cette affaire, mais un livre d'Alain Corbin, Le village des cannibales, publié chez Flammarion dans la collection Champs Histoire. Ou encore, on pourrait citer tristement l'affaire de Charonne du 8 février 62. La question posée est celle de l'ethnocentrisme en distinguant ceux auprès de qui nous devons justifier nos croyances et les autres. Plus simplement, et sans excuse, et sans excuser personne, tout le monde est un peu victime. Et plutôt que d'invoquer des explications de type identitaire, il serait, pour Gérard Noiriel, préférable de dire qu'ils ont utilisé l'arme de la nationalité pour tenter de sauver leur dignité et légitimer la violence qu'ils avaient en eux. La compagnie des Salins a créé les conditions de cette tuerie. Et j'ajouterais qu'un peu d'idéologie et de réflexion politique, ce qui viendra plus tard, aurait évité cette impulsion par définition irraisonné. Je cite encore Gérard Noiriel, « La politisation des faits divers apparaît ainsi comme une dimension essentielle de la stigmatisation des étrangers lorsque ceux-ci sont issus des pays présentés comme les ennemis de la France. » Je trouve que cette phrase est d'une actualité rare. Je rappelle le titre « Le massacre des Italiens, Aigues-Mortes, 17 août 1893, Gérard Noiriel aux éditions Pluriel, c'est sorti donc chez Pluriel. » Et puis, chers amis, il est à ma pendule 18h28, des livres, on vous en a présenté, on vous en présentera encore d'autres. J'espère que ça vous convient, vous avez la patience de nous écouter, c'est très gentil à vous. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute. On se retrouve le mercredi 9 avril 2025 en direct avec une surprise, un roman qui s'appelle « La naturalisation » et qui est sorti chez Grasset. Je vous réserve pour la prochaine fois le nom de l'auteur. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite ni Dieu ni maître, un bel idéal de vie. À bientôt, et au plaisir de partager. Ni Dieu ni maître.
colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, le libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. C'est la 11e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. On peut nous suivre sur le blog en allant sur émission-femmeslibres.blogspot.com. Et on peut donc ainsi réécouter les émissions, avoir le programme. Mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud grâce à Sylvie. Le programme de ce soir, Féminicide par compagnon ou ex, un opus poétique, Nos deuils attentifs de Laurence Nobecourt, édition La Rumeur Libre. Et avec. Bah oui, mais tu n'étais pas encore assise, chère amie. Avec Sandrine Malika, voilà. Et puis après, nous avons pour invité Hélène Merlin. Pour son film Cassandre, un très très beau film, mais on aura l'occasion de découvrir ce film tout à l'heure. Et on terminera par des informations, des communiqués, des rendez-vous. On démarre avec le premier temps, Féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie, une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son
père. Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
Dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France pour l'année 2025 conduisent au chiffre